c'est-à-dire une notion spirituelle, à tel point que durant toute la période de notre vie, nous sommes devenus religieux. Notre retour en terre d'Israël nous fait sortir de la religion, qui n'est en réalité pas notre réalité, et nous fait redevenir ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire un peuple, une nation, et non pas une religion. Car une religion n'a pas besoin d'espace, n'a pas besoin de terre, alors qu'une nation, oui. Et pas seulement qu'elle a besoin de terre, c'est que cette nation a une mission. Et là, j'arrive et j'aborde le sujet, un sujet qui est très 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 complexe, bien entendu, impossible de traverser le sujet d'une manière complexe, mais on va essayer d'aller vers le thème, et à l'inverse de tous les autres intervenants, je ne vais pas parler d'un procès spécifique, je vais parler de la notion globale, de ce qu'est la prophétie, avant de rentrer dans la personnalité des prophètes. D'abord, il faut comprendre que c'est quelque chose d'incroyable et d'incompréhensible. L'infini parle à sa création. C'est difficile à entendre. C'est difficile à comprendre. Comment est-ce que l'infini parle à sa création? Et qui nous dit que celui qui entend, entend bien? Ça peut être un fou. On en ferme pour beaucoup moins que ça aujourd'hui. Le sujet général, c'est donc les prophètes et Jérusalem. Jérusalem n'est pas seulement une ville. Jérusalem, Yerushalayim, c'est l'Assemblée d'Israël. L'Assemblée d'Israël s'appelle Yerushalayim. L'Ech ve'emor ve'ozne Yerushalayim va dire aux oreilles de Yerushalayim, car Yerushalayim a des oreilles, Zachartilach chesed me'uraich ahavat klulotaich l'echech acharai b'midbar b'eretz lo zroua. C'est Dieu qui parle à l'Assemblée d'Israël, qu'il nomme donc Yerushalayim, et il lui dit dans ses oreilles, comme un amoureux qui dit à sa femme, je me rappelle que tu m'as suivi dans une terre aride, alors que je n'avais rien à t'offrir, en tout cas rien d'apparent. On parle bien entendu de la sortie d'Égypte. Et cette épouse, donc l'Assemblée d'Israël, a suivi à Kadosh Baruch Hu aveuglément. Je parle de 20% d'entre nous. 80% sont restés en Égypte et sont morts dans une plaie qui peut frapper aujourd'hui aussi, la plaie des ténèbres. C'est-à-dire la plaie de ceux qui ne voient pas, de ceux qui ne comprennent pas, de ceux qui ne prennent pas le train en marche. Ça, c'est la plaie des ténèbres. C'est une extinction, pas de la lumière extérieure, mais de la lumière intérieure de l'être. Je vous disais, ce sujet est tellement vaste, tellement grand, que nous sommes obligés, tout doucement, d'y pénétrer avec beaucoup de douceur. Le mot nazi, ou la nevoua, tire sa racine dans trois lettres, comme beaucoup de racines en hébreu, Nuz, Nun, Yud, Bet. Et Nuz est relatif en hébreu aux lèvres. Les lèvres, c'est la dernière partie de la bouche, c'est-à-dire l'expression la plus extérieure. Avec il y a des lettres qui viennent du plus profond, qui passent par un stade central et qui après s'expriment extérieurement. Par exemple, lorsque je dis Aleph, le A commence très profondément, le L est déjà au niveau de ma langue et le F est déjà au niveau des lèvres. Donc le nazi est celui qui est capable de prendre quelque chose de très profond et de le véhiculer vers l'extériorité. C'est pour ça que le mot nazi est aussi en hébreu celui qui amène. Nazi. Faire venir quelque chose d'un degré supérieur pour le mettre sur terre. Donc traduire l'idée divine, la parole divine, qui n'est pas la parole de l'homme. Oubliez ce que vous voyez dans les films. Jamais Dieu ne parle à Moshe, Moïse. C'est des bêtises, c'est ça. Il faut bien comprendre qu'il s'agit ici d'autre chose. Et il y a deux écoles de prophétie. C'est-à-dire, on va étudier la prophétie. Qu'est-ce qu'on étudie dans ces écoles? La Kabbalah. La Kabbalah, c'est ce qui nous reste aujourd'hui de la prophétie. C'est-à-dire que les nouveaux prophètes sont en réalité ceux qui sont aujourd'hui des kabbalistes. Donc les derniers prophètes étaient aussi des kabbalistes. Donc les kabbalistes sont le lien, la charnière entre les anciens prophètes et ceux qui vont le redevenir. Le Nil Svatayim veut dire que le ciel, avec tout ce que cela représente, donc l'infini, l'étoile, a besoin, entre guillemets, il s'est créé ce besoin, d'un porte-parole. Et donc le prophète est le porte-parole du ciel. Le ciel ne s'exprime pas tout seul, il a besoin, et encore une fois, besoin ne veut pas dire qu'il est limité, qu'il ne peut pas faire autrement, il s'est créé ce besoin, il a associé une forme humaine qui va être le porte-parole de l'idéologie divine, entre guillemets. Je veux parler, bien entendu, du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été choisi, et donc l'un des prophètes nous le dit aussi, c'est Dieu qui parle. À chaque fois qu'un prophète parle, c'est en réalité Dieu qui parle. Mais comme on n'entend pas Dieu parler, eh bien, il faut que cette parole divine soit véhiculée par un verbe humain. La chose la plus proche de la parole divine, c'est le son du chauffard. Donc Dieu ne parle pas comme nous. Lorsque Dieu parle, il parle dans une unité tellement unifiée et tellement unique qu'il nous est incapable d'entendre. Car Dieu est dans l'unité. Et donc ce n'est pas que Dieu commence et s'arrête de parler, comme on pourrait le croire. Dieu se réveille un beau matin et dit à Moshé, à 10h du matin, on a rendez-vous, je vais te dire quelque chose. Je parle de 10h à 10h10. Ça n'existe pas. Car si vous prêtez à l'éternité ce genre de valeur, c'est qu'il y a des débuts et des fins. Donc il y a une limite, donc vous avez limité Dieu, ça s'appelle dans un langage simple de la Avodah Zara. Dieu n'arrête jamais de parler. Sa pensée est véhiculée non-stop. La Torah que vous croyez avoir été donnée il y a 3500 ans, c'est faux, elle est en train d'être donnée maintenant. Et les mêmes paroles créatrices de toute la création sont en train d'être dites maintenant. Car il n'y a ni début ni fin, car on parle de l'infini. L'infini n'est pas limité dans le temps. Donc il n'y a pas de commencement ni de fin, ni chez lui, ni dans sa parole, ni dans sa pensée. Alors que se passe-t-il? Comment est-ce qu'on a entendu la Torah il y a 3500 ans? Ben, tout simplement, on était au niveau de l'écoute. On était disponible à ce moment, ici, dans ce monde. Mais lui continue de parler tout le temps. À tel point que si j'étais capable aujourd'hui de me mettre au même niveau, je devrais entendre les paroles de la création du monde, les paroles du don de la Torah et tout le reste. Car c'est un verbe qui ne s'arrête jamais. Vous le dites à Rosh Hashanah et à Yom HaKippourim, mais généralement on ne sait pas ce qu'on dit, malheureusement, parce qu'on a 2000 ans d'exil, donc d'étouffement de la pensée. Le'olam Adonai Devarchanita Vashamayim. Maintenant que je vous le dis, ça vous rappelle quelque chose. C'est-à-dire, à jamais, à peine, tes paroles sont en train d'être dites dans un degré qui s'appelle ciel. Alors pourquoi je ne les entends pas? Parce que je ne suis pas capable, dans ma structure momentanée, d'entendre. Mais je devrais l'être. Parce que j'ai été créé avec une structure qui me permet d'entendre les paroles de l'infini. Et ça, c'est la prophétie. Je veux dire par là que lorsque l'infini parle dans son mode unitaire, nous, dans ce monde, on ne peut l'entendre que dans un monde binaire, dans un degré binaire. C'est-à-dire que Dieu parle un et nous, nous entendons deux. Impossible de faire autrement. Dieu donne une Torah, dès qu'elle arrive sur terre, il y a déjà deux tables. David HaMelech nous dit ce secret dans Tehillim 62, Achat diber Elohim, Shtaim zu shamati. Lorsque Dieu parle en code 1, moi j'entends en code 2. C'est pour ça que nous avons deux oreilles. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah seule. À quel point est-ce que les sages nous disent, ou bien tu étudies avec un autre pour avoir un autre sens que le tien, sinon tu es dans l'un des sens ou dans la naissance. Donc il y a un problème. Donc il faut que j'entende la Torah avec deux éclairages minimum, avec deux approches minimum. Ou bien tu es dans une chavruta d'une vie végétale, ou chavruta ou mituta. C'est très grave. Ou bien tu es à deux, ou bien c'est la mort. C'est-à-dire la Torah seule, c'est une mort. On ne peut pas l'étudier, car tu tournes toujours autour de ton propre système de réflexion. Donc tu es limité par ta subjectivité. Et tu ne peux pas être objectif, parce que tu ne peux comprendre que lorsque tu comprends toi-même. Ce peuple d'Israël est une pensée divine. Israël a lou ben marchava tchila. Israël, c'était la pensée bien avant que le monde ne soit. Mais à ce niveau-là, de cette pensée, ce n'est pas encore un peuple. Ce n'est pas encore une nation. Ce n'est pas encore des êtres humains. C'est une pensée, c'est une idée qui s'appelle Israël. D'ailleurs, Rabbi Akiva, dans une braïta, dans une mishnah qui n'a pas été retenue dans la mishnah, le Tzidki nous dit Chaya, Achat, Omed, Be'emta, Habakia. Il y a une forme de vie qui est au centre même de Rakia. L'Israël, elle s'appelle Israël. Omed, Be'emta, Habakia. Elle est au centre de tout. Vechakouk al Mitzrak Israël. Et sur son front est gravé Israël. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est là pour Baruchou et Hashem Amevorach. Qu'est-ce que c'est Baruchou? Vous avez l'impression de dire bénissé. Moi, je ne sais pas comment on peut bénir Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. Alors, quand vous dites Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'éternel. Comment tu peux le bénir? C'est lui qui te bénit ou c'est toi qui le bénis? Pour bénir quelqu'un, il faut être plus haut que lui. Donc c'est tout faux. Toutes vos traductions en français sont fausses. C'est pas béni soit-il éternel, mais le mot Baruch en hébreu ne veut pas dire bénédiction, mais relié. Car le mot Baruch, Berech, comme le genou. Le genou, c'est ce qui fait le lien entre le bas et le haut. D'ailleurs, dans un couple, on est toujours dans un jeu. Nous. Eh bien, c'est exactement le secret du Baruch. Baruch veut dire relié à moi, tu es l'éternel. Donc, quand je dis Baruch à ta Hashem, je demande à l'éternité d'être relié à moi, de me relier à la valeur de l'éternité. En aucun cas, de lui soit-il éternel. C'est très pauvre en français, mais que voulez-vous. Donc, ce secret-là, il faut un porteur humain de cette qualité. Il faut un porteur humain qui va s'appeler Israël. Israël, vous l'avez dit, c'est une notion. Mais qui va être Israël réellement, physiquement? Eh bien, il y a une guerre perpétuelle parmi les êtres humains qui va être Israël en bas. Parce que Israël, c'est une notion. Donc les Égyptiens, par exemple, peuvent nous dire, mais c'est nous Israël. C'est vrai que c'est une pensée divine, mais cette pensée divine, lorsqu'elle s'habille dans un genre humain, dans des corps, qui vont être les corps qui contiennent et qui portent le message divin? Vous vous dites que vous êtes Israël, trouvez-le. Nous aussi on peut dire qu'on est Israël. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais créer un peuple, nouveau peuple, en utilisant vos femmes, car le judaïsme passe par la maman, et en tuant les garçons. C'est ce que fait le pharaon. Donc il crée un nouveau peuple d'Israël. Il tue les hommes, il garde les femmes. Quand une femme va se marier avec un Égyptien, elle va avoir des enfants Israël avec une mentalité égyptienne. Voilà le nouveau Israël. Vont venir les Grecs, vont dire à la tête. Va venir la chrétienté et va dire la même chose. Comment elle s'appelle? Zéhout Israël. C'est nous le vrai Israël. Vous êtes pas des vrais Israël. Alors comment est-ce qu'on peut prouver que nous sommes Israël? Vous êtes sûr que vous êtes Israël? La seule chose qui prouve que nous sommes Israël, c'est la fin des temps. Car Israël seul reviendra sur sa terre. Le retour à la terre d'Israël prouve que nous sommes le véritable peuple d'Israël. Celui à qui cette terre appartient, c'est celui qui va venir y habiter. C'est pour ça que nous sommes revenus, que nous sommes à la fin du processus mondial, et que c'est nous en réalité les porteurs du véritable message divin. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est énorme, j'ai écrit plus de 40 pages, mais bien entendu, je ne pourrai pas développer le tout, mais ça me sert toujours si je vais écrire un livre. Il y a une donnée de base. D'ailleurs, je suis en train d'écrire. Il y a une donnée de base, une forme qui est immuable, c'est-à-dire un axiome de base qui fixe que le peuple d'Israël a été choisi pour être le porte-parole de l'éternité. Nous sommes le chauffard d'Akadosh Baruch Hu sur ce monde. C'est une preuve qui ne peut pas changer et qui ne dépend pas de nos actions. Même si tout le monde fait n'importe quoi, c'est une carte magnétique qui a été insérée dans notre système intérieur le plus profond. C'est-à-dire, on peut tout casser, mais jamais sortir de notre structure intérieure qui est notre base. Cette idée, on l'a retrouvée à Hanouka. On peut tout salir, on peut tout souiller, sauf une fiole. Cette fiole, c'est pas une fiole qu'on est rentré trouver dans le temple parce que les autres ne l'ont pas vue. Les autres sont incapables de la voir, car elle nous appartient. Même si toutes nos huiles, toutes nos pensées sont souillées, il restera toujours cette fiole par laquelle nous rallumerons pas seulement la Hanoukia, mais le monde entier. Nous sommes là pour éclairer le monde. Et donc cette partie ne peut pas dépendre de notre bon vouloir ou pas. Ça ne change rien. Nous avons chacun reçu une carte mère à l'intérieur de notre être. Et cette carte mère nous a doté de la capacité d'être prophète. C'est-à-dire que vous êtes tous des prophètes en potentiel. Le seul problème, c'est d'activer ou de ne pas activer cette carte. Mais elle est en vous. Elle est en nous. Je peux recevoir un cadeau et ne jamais l'ouvrir. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pendant 2000 ans. Nous avons un cadeau que nous avons reçu et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a pas activé. Donc, c'est un cadeau qui est resté fermé avec son papier cadeau et une belle ficelle qui l'entoure. Le jour où on décidera de réouvrir ce cadeau, eh bien, on recommencera à entendre la parole divine qui circule tout le temps. Le Zohar nous donne une clé. Il nous dit la chose suivante. Lech, Lecha. Qui a dit à qui? C'est le jeu des devinettes. Dieu à Abraham? Faux. Dieu n'a jamais dit à Abraham, Lech, Lecha. Dieu le dit à tout le monde, à toutes les générations. Mais Abraham est monté à l'étage, il a entendu, il a fait ses amis, il est parti. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Abraham, c'est pas lui, c'est chacun de nous. Si vous montez au degré d'entendre le Lech Lecha, c'est d'ailleurs ce que vous avez fait, la preuve vous êtes là. Vous avez entendu ce Lech Lecha. Vous avez l'impression que vous avez pris une décision, mais c'est faux. C'était beaucoup plus haut que votre propre décision. C'est quelque chose qui vous a poussé de l'intérieur. Et ce Lech Lecha, vous l'avez entendu à votre manière. Donc c'est en réalité un message divin qui ne s'arrête jamais. Jamais. Abraham Sama Zekidel. Abraham a entendu et il a reçu. Il a fait ce David. Il est parti. Comme vous aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement la prophétie, et là c'est une règle numéro 2, ne peut pas se faire en dehors de la terre d'Israël. C'est-à-dire le seul lieu géographique par lequel on peut prophétiser, c'est cette terre. Et lorsque mon ami David Bannon va donner sa conférence sur Yona, et je lui dirai un petit peu son texte, mais en réalité, Yona, pourquoi il a envie de se sauver d'ici? Pour arrêter d'entendre. Tout simplement, celui qui quitte cette terre ne peut plus entendre la prophétie divine. On ne vous raconte pas d'histoire. Cette prophétie est liée, intimement liée à cette terre, car on ne peut pas dissocier le peuple de sa terre et de sa Torah. Et j'y arrive. La Torah, en réalité, que nous avons reçue, mais qui en réalité est donnée à chaque instant, d'ailleurs vous le dites tous les matins, « Baruch ata Hashem, notem ha Torah ». C'est au présent que je sache. Si c'était au passé, vous auriez dû dire « Natan ha Torah », il a déjà donné. Non, notem, il la donne au présent. Ça veut dire que la Torah est en train d'être donnée maintenant, et c'est à moi de monter au mont Sinaï de mon être. Et si j'arrive au mont Sinaï de mon être, eh bien j'entends la Torah. Et lorsque je redescends du mont Sinaï, je peux la partager avec mon ami. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est ce que font les Kabbalistes. Lorsqu'ils montent à la Torah le Shabbat, ils descendent, et de là est arrivée la coutume où on va serrer la main à tout le monde. Pourquoi tu les as pas vus? Tu lui as dit Shabbat Shalom tout à l'heure. Tout simplement, tu es descendu du mont Sinaï, tu transmets ce que tu as reçu. Et donc tu serres la main à tes amis pour leur faire passer ton expérience sur le mont Sinaï de ta synagogue. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une forme qui ne peut pas bouger. C'est-à-dire qu'il y a un choix divin. « Asher bachar banu mikol ha'amim ». Quelqu'un d'entre vous peut me rappeler quand est-ce qu'il y a eu cette élection? Parce que moi, je ne me rappelle pas. Qui nous a choisi de parmi les nations? Vous vous rappelez d'un phénomène où Dieu a mis toutes les nations et qui les a choisis? Moi, je ne me rappelle pas du tout. Parce que vous savez des choses que je ne sais pas, on n'a pas la même enseignée. Non, c'est pas une blague, c'est une réalité. Asher, Bacha, Banu, Nicole, Hami. Quand on dit une grâce, on a l'impression que c'est un truc inventé.
Non,
je vous ai choisi. Mais alors quand? Quand? Moi, je pose la question, quand? C'est ça votre problème. On a l'impression que Dieu a regardé toutes les nations, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais me prendre? Mais cela, pourquoi pas? Non! Quand on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, c'est bien avant de nous créer. Il a choisi de nous créer avec la capacité d'être prophète. Et donc c'est une forme de vouloir divin qui est de créer une nation qui va être elle seule le porteur du message divin, donc qui s'appelle dans notre langage la Torah. La Torah est donc une prophétie, la plus grande des prophéties. Tout ce que vous lisez dans la Torah, c'est la parole de qui? De l'infini, pour le monde. Et qui a reçu cette Torah? Le peuple d'Israël. Moralité, le peuple d'Israël a reçu le cadeau de l'infini pour le transmettre au monde. Attention, le peuple d'Israël ne doit pas rester dans son petit but. On n'est pas là pour nous-mêmes. On est là pour éclairer le monde, pour le sortir de sa dépression. Le monde est dans une dépression totale. Et c'est le peuple d'Israël qui va sauver l'humanité, qui va donner un éclairage à l'humanité. Je ne croyais pas qu'on a voulu ce rôle, même beaucoup d'entre nous veulent s'en défaire. Mais on ne peut pas. C'est impossible. On ne peut qu'étouffer la chose. C'est-à-dire que l'homme le moins pratiquant ne peut jamais se sauver de lui-même. Il pourra tout simplement étouffer sa carte mère, ne jamais l'ouvrir, ce cadeau qu'il a à l'intérieur de lui, mais il ne pourra jamais s'en débarrasser. Et un jour ou l'autre, par un aimant extérieur, il va avoir un rappel et tout va remonter à la surface. Et si ce n'est pas celui, ce sera son fils ou c'est son petit-fils ou sa petite-fille. Donc ça, c'est la création divine. C'est une création à part entière d'une structure humaine qui s'appelle Israël. Et d'ailleurs, les sages vont jouer avec les mots Israël et vont dire Israël, ce sont les initiales de Yud, Shin, Res, Aleph, Lamed. Je suis en train d'écrire Israël. Yer, Yud, Shishim, Ribo, 600 000, Otiyot, la Torah. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. C'est-à-dire que les lettres de la Torah, ce sont les enfants d'Israël. Il y a 600 000 âmes. Et c'est pour ça que quand on enlève le Sefer Torah qu'on appelle la Hadbara, chacun d'entre nous regarde la lettre par laquelle son nom commence. Moralité, ces 600 000, ils étaient où? En Égypte. Puisque 600 000 sont sortis. Donc qu'est-ce qu'on a libéré d'Égypte? La Torah. La Torah était en Égypte. Cassée. Enfermée. Prisonnière. Et lorsque nous sommes sortis d'Égypte, on a libéré en fait la Torah. Mais d'après ce que vous avez en train de vous dire, on a libéré qui? La parole divine qui était enfermée en Égypte. Alors oubliez l'Égypte. C'est l'Égypte est une conception, est une fermeture, est une perte de l'identité. Quand on sort d'Égypte, ce sont les retrouvailles avec notre identité. Et toute la sortie d'Égypte, elle est faite pour quoi? Bien, Dieu le dit à Moshe. Pour vous ramener sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que je suis Dieu pour vous. À tel point que l'Agmara nous dit que celui qui n'habite pas en terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Je suis votre Dieu quand vous êtes sur la terre. Ça fait peur, non? C'est extraordinaire. Ça veut dire que si nous ne sommes pas les témoins de l'éternité, c'est comme si l'éternité n'existait pas. Et je vous cite un verset, « Atem Ha'edai, vous êtes mes témoins, je anis El. » Alors je suis Dieu. Et le sage dit, « Si tu n'es pas mon témoin, je ne serai rien moi dans le ciel. » Dieu dans son ciel, il est en exil. Vous voulez aider Dieu à sortir de son exil? Il faut le faire descendre. Et c'est d'ailleurs ça, tout le secret de tout l'histoire. Qu'est-ce que c'est que Dieu sur terre? Bien, c'est les fruits que vous mangez, qui poussent sur la terre d'Israël quand vous allez au marché. Et les sages dans la Gemara nous disent qu'il n'y a pas de preuve flagrante de la fin des temps plus grande que celle de voir de beaux fruits qui sortent de la terre d'Israël. Mais tout ça, c'est une prophétie. Vatem Hare Israël, Anisechem Tisnou, Birichem Tisoule Ami Israël, Kikarvou Labo. Et vous, la terre d'Israël, les arbres de la terre d'Israël, les montagnes d'Israël, vous allez donner vos fruits avec un bon œil, parce que mon peuple est en train de revenir sur la terre. Et plus le peuple reviendra sur la terre, plus les fruits de la terre d'Israël vont être beaux. Et ces fruits ne sont pas seulement les fruits des arbres de la terre, ce sont nos enfants. Les enfants de cette génération sont extraordinaires. Bien entendu, ils ne paraissent pas l'être. Et le Zohar nous dit, encore une fois, prophétie, que seulement ceux qui verront l'intériorité de cette génération comprendront. Les autres ne verront que la coupe de cheveux, que la manière de parler. Ils ne comprendront pas qu'ils ont affaire à des Neshamot extraordinaires, qui paraissent être vilaines, superficiellement parlant. Quand nous sommes sortis d'Égypte, on a donc révélé la Torah. C'est la Torah que nous avons sauvée, qui s'est tout simplement reformée, et nous est apparue sous la forme de la Torah que nous connaissons. Et là, ça complète le processus de la création du monde. Pourquoi? Parce que le but de la création tout entière, c'est qu'il y ait un prophète. Et le prophète, c'est Israël. Pourquoi faire? Eh bien, pour traduire les valeurs du ciel sur terre. S'il n'y a pas la Torah, je ne peux pas le faire, parce que je ne sais pas qu'il veut. La Torah est donc notre clé pour savoir ce que l'infini veut de ce monde. Étudier la Torah, c'est donc étudier la prophétie qui nous a été donnée. et qui nous est donné à chaque instant. Seulement, comme un prophète ne reçoit pas une prophétie clairement, il la reçoit d'une manière codée. Et donc, il faut décoder la Torah. Et ceux qui ne savent pas décoder la Torah, eh bien, la laissent au niveau de l'histoire. Et ça, c'est pas un prophète. Un prophète, c'est celui qui s'est rentré à l'intérieur du texte pour ouvrir le texte et libérer l'oiseau qui se trouve à l'intérieur. Sinon, vous étouffez le texte par un récit du passé. Ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Yosef, on ne l'a pas jeté dans un trou. Yosef, c'est moi. Est-ce que moi, aujourd'hui, je jette mon propre Yosef qui est en moi dans un nouveau trou dans ma nouvelle vie? C'est comme ça qu'il faut lire la Torah. Si vous lisez ça comme une histoire du passé, à quoi ça vous sert? Le Zohar pose une question incroyable, presque visible. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et je suis encore poli. Le Zohar est encore pire que ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire que Noach avait 600 ans quand il est rentré dans son arche? Car la Torah prend le soin de me dire qu'il avait 600 ans. Et s'il avait 550, ça t'aurait fait question, tu aurais été plus content parce que c'est une guerre. Qu'est-ce que je m'en fous de ça? Si la Torah prend le soin de me dire que Noach avait 600 ans, c'est parce que ce chiffre a quelque chose d'extraordinaire secret. Je ne vais pas rentrer maintenant. C'est juste pour vous montrer que nous-mêmes, nous devons rentrer dans notre Teva. Or, le mot Teva veut dire quoi en hébreu? Nach, pas du tout. Un mot, un mot. Les mots en hébreu, ça s'appelle des Tevot, Rachet Tevot, des initiales. Donc, rentrer dans la Teva, c'est rentrer dans les mots, donc dans l'étude de la Torah. Et pas dans une arche en bois. Ça, c'est pour les enfants. Vous voulez rentrer dans votre arche pour être sauvé du déluge? Je suis en train de vous dire une prophétie. Hein. Je vous l'explique tout simplement. Je vous l'ouvre. Rentrez dans les mots. Vous allez rentrer dans des arches. Et dans cette arche, il y a une structure d'équilibre. C'est ça le secret. C'est le 6 qui rentre dans le 7. C'est le 6e millénaire qui rentre dans le 7e millénaire. Alors il est dans le repos. Noach. Noach le chat. Tu es dans la guerre? Oui. Le Noach m'a sa chen. Donc Noach a trouvé sa grâce. Chen, ce sont les initiales de Chochmat Hanistar. Il a trouvé la sagesse du secret. C'est ça le secret de l'art. Et dans cet arc, il y a trois étages, comme dans mon corps, comme dans mon être. L'étage de l'esprit, l'étage des ressentis et l'étage animal. Et c'est exactement ce qu'il y avait dans l'arc de Noach. Et l'ensemble des mesures de cet arc forme le mot shalom. Exactement. C'est-à-dire que la Torah me donne les mesures de l'acte pour nous dire que tu arriveras au shalom, à ta paix, à ton entité, lorsque tu rentreras dans cet arche. Vous comprenez comment on doit comprendre une prophétie? La Torah est une prophétie? Bereshit bara Elohim. Melamed she'olam nivra bekoach ha'reshit. Qu'est-ce que ça veut dire, Bereshit bara Elohim? Il ne dit surtout pas au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. D'ailleurs, ceux qui étudient avec moi, quand je pose des questions, ils répondent même plus en peur. Mais vous comprenez combien on a été trompé? C'est n'importe quoi, toutes ces traductions. Ça ne veut rien dire. En hébreu, pour dire au commencement, on doit dire Barishona ou Batrila. Et on ne peut pas dire Bereshit et Bara. Vous connaissez le Tav qui fait le lien, Bereshit, Hakai, au début de l'été, mais je ne peux pas dire Bereshit Bara, ça ne veut rien dire. Au niveau grammatical, c'est une faute grave. Sous-entendu, Bereshit ne veut pas dire commencement, c'est le nom de quelqu'un. Et qui c'est Bereshit? Israël et la Torah. Celui qui est au récit. Israël a été appelé récit, et la Torah a été appelée récit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prémisse, les prémices de la pensée divine, c'est Israël. Et la Torah. La Torah portée par le peuple d'Israël. Israël prophète la Torah. Prophétise Dieu par rapport à la Torah. Donc nous sommes 600 000 âmes de prophètes qui ont reçu la même parole divine au même moment au mont Sinaï. Et nous avons chanté la même chanson à la sortie de l'Égypte. Ah, bien sûr, Moshe. Vous connaissez cette chanson. Vous croyez que Moshe a fait des photocopies du texte? Vous savez le texte, les gens. Ils se sont mis à chanter tous, au même moment, la même mélodie, le même texte. Ça, c'est de la prophétie, brutale. Personne au monde ne peut dire qu'il y a une prophétie collective d'un peuple. Chacun va venir nous raconter ses histoires. Jésus, Dieu. D'accord, il faut t'enfermer. On ne peut pas mentir, nous. Si on n'a pas vu, on ne peut pas dire à nos enfants qu'on a vu. C'est-à-dire les seuls prophètes de ce monde, c'est Israël. Et Dieu, lorsqu'il apparaît à ce peuple d'Israël et que ce peuple arrive à monter pour le voir, car pour arriver à l'entendre et à le voir, qu'est-ce qu'il faut être? C'est Ishtechad Belez Echad. Et maintenant, je vous donne une clé. Si vous voulez un jour devenir prophète, il faut être comme un seul homme, avec un seul cœur, c'est-à-dire être dans l'amour de votre nation à un point où vous disparaissez pour cette nation. Vous n'existez même plus par rapport à elle. Votre monde individuel n'est plus. Tant que tu es dans le monde individuel, tu ne peux pas être prophète. Il y a un lâcher prise total. Donc un prophète est celui qui souffre la souffrance de son peuple et qui se réjouit dans les joies de son peuple. Ça, c'est ce qu'on apprend dans l'école de prophétie. Mais ce n'est pas quelque chose de psychique. C'est un travail de vie. Vie au degré de ton peuple. C'est autre chose. Eh bien, lorsque Dieu nous apparaît, nous dit Anochi, Adonai Elohecha, Asher Hotzeticham Eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Traduction en français, ça va me dire encore. Éternel, ton Dieu. Qui t'a fait sortir de lui. Peu importe, on va garder la traduction. Si c'était faux, il y aurait eu au moins 200-300 personnes qui auraient dit « Arrête, c'est pas vrai, c'est pas toi qui nous a fait sortir d'Égypte. » Ne continue même pas à dire le reste, c'est faux. Si personne ne parle lorsque Dieu dit « Je suis celui qui vous a fait sortir », ça veut dire que vous l'avez vu il y a 50 jours. Donc je peux continuer maintenant à vous dire mon message. Et vous, vous allez dire tout ça à vos enfants. Vous, vous avez menti à vos enfants un jour en lui disant à votre fils ou à votre fille quelque chose que vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas vu. Personne. Si tous ces êtres ont dit à leurs enfants, tu sais, l'année dernière on était au Mont Sinaï et on a reçu la Torah, et les enfants vont dire aux enfants, et les enfants vont dire aux enfants, jusqu'à bout. Moralité, aucun risque que ce soit un mensonge. Et si en plus on peut croire que Moshe est un grand sorcier, c'est possible. Eh bien, le peuple d'Israël a déjà fait pour nous cette vérification. Ils disent à Kadosh Baroukh Hou, d'abord à ta iman, on veut que toi tu nous parles. Et Moshe dit à Dieu, l'odomé, shomé à mipi, ha rav, mais à faire mipi, ha shamir. Ils ne veulent pas entendre moi, ils veulent entendre toi. Parce que moi, je suis peut-être avec un grand charisme, je peux les embrouiller, je peux faire de la sorcellerie. Et à Kadosh Baroukh Hou, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont raison. Ine anochi ba elecha be'a be'anam. Alors je vais venir vers toi. Ba'avou isma ha'am de daperi. Je veux que le peuple entende que c'est moi qui te parle. Ve'gam pencha ya'aminu. Pour qu'ils aient confiance aussi en toi. Que tu n'es pas quelqu'un qui est un inventeur de quelque chose. Un magicien. Un farceur. C'est extraordinaire. Nos pères, nos mères, ont déjà fait tous les tests possibles pour ne pas que quelqu'un nous embrouille et vienne nous faire manger des choses qui n'ont pas existé. Il n'y a pas de prophétie plus grande que celle-ci. Ça, c'est récit. Israël la scène. Quand est Israël la scène? C'est-à-dire que grâce à cette récit, des récits, grâce à ce degré qui s'appelle récit, donc Israël, Bara Elohim et Tassamani de Zahar, le ciel et la terre valent le coup d'être créés. S'il n'y avait pas Israël, le ciel et la terre n'existent pas. La preuve, c'est qu'Israël ne reçoit pas la Torah au mont Sinaï, le monde revient à Tohu Bohu. Autrement dit, toute la création était que pour cet instant où le peuple est capable de prophétiser et d'entendre la parole de l'infini qui arrive à ce monde. Vous comprenez pourquoi on gêne tout le monde? Vous comprenez pourquoi on est des gêneurs? Vous comprenez pourquoi la chrétienté ne voulait pas et a du mal avec notre retour sur notre terre? Parce que seulement celui qui revient à sa terre, c'est le vrai Israël. L'autre est un mensonger. Alors au départ, ils ont dit, bon, ils sont revenus sur notre terre en 1948, mais c'est pas Jérusalem. Eh bien, 19 ans plus tard, on est revenu à Jérusalem. Alors ils se sont dit, bon, mais c'est Jérusalem, ils ne sont pas revenus au temple, on va tout faire pour jamais qu'ils soient dans le temple. D'ailleurs, même nous, on a peur, on dit non, on veut garder le statu quo. N'importe quoi. On est venu pour garder le statu quo. On est venu pour reconstruire le troisième temple, pour encore une fois prophétiser, amener la lumière au monde. Pourquoi nous avons peur nous-mêmes de notre propre rôle? Ça a toujours été comme ça d'ailleurs. C'est les goïms qui nous donnent le rôle. Ah, yom ou ba goïm, il dit la seule à fait une elle. C'est eux qui voient combien Dieu nous aime, et après nous en deuxième. Il dit la seule à fait une elle. Si, pas une série. Il y a ici donc quelque chose d'extraordinaire. Je vous assure, je n'ai même pas commencé mon cours. Mais je vois que c'est déjà la fin. Je n'ai même pas commencé le cours. Je vous jure, je n'ai même pas effleuré quoi que ce soit. Rien n'a pas une page. Je suis en train de vous dire qu'il y a un programme divin qui est intimement lié à l'existence du peuple d'Israël. Et que ce monde n'arrivera pas à sa plénitude tant qu'Israël n'apparaît pas dans ce monde et tant qu'Israël ne commence pas à activer le don qu'il a reçu cadeau. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est la quintessence, l'essence de toute l'existence. Akadosh Baruch Hu a choisi cette nation, cette Neshama spéciale pour introduire à l'intérieur d'elle-même le feu de l'infini. Et révéler le secret de son programme infini à l'humanité tout entière. Vous savez pourquoi on est sorti d'Égypte? Pour qui on est sorti d'Égypte? Pour nous? Non. Le texte le dit clairement, et là encore on ne sait pas lire. Veyad ou Mitzrayim qui a mis un. Je veux que l'Égypte reconnaisse que je suis l'Éternel. Vous, le peuple d'Israël, vous êtes juste un intermédiaire, vous êtes juste le porteur, vous êtes le chauffard. Je vous utilise comme un moyen, comme un vecteur, comme un médium. Mais mon but, dit Akadosh Baruch Hu, c'est que le degré le plus bas de ce monde, qui s'appelle d'une manière codée Égypte, reconnaisse ma suprématie. Et vous, vous êtes les jongleurs, vous êtes les joueurs de ce jeu. Oreille de Rabotel, si vous ne voulez pas rentrer dans ce jeu, si vous avez peur de votre propre rôle, si vous êtes dans le doute, on ne peut pas avancer réellement. Baruch HaShem, je parle à des gens qui sont déjà ici, donc vos doutes sont beaucoup moins forts, car vous êtes en train de jouer votre rôle. Vous allez me dire, mais on ne parle pas, vous n'avez pas besoin de parler, vous êtes là. Le fait d'être ici, c'est la plus grande des paroles. Il n'y a pas besoin de plus. Le fait que le peuple revienne sur sa terre, c'est le plus grand message émis au monde entier. Et donc ce choix de Dieu concernant le peuple d'Israël, c'est une création divine. C'est elle la création. C'est ça que Dieu a créé. Il a créé cette forme humaine que nous sommes. Rien pour cela, nous devons lui dire merci à chaque instant. Mais ce rôle est difficile à porter. Nous sommes bafoués, nous ne sommes pas entendus. Mais là, en revenant sur notre terre, nous recommençons d'être entendus, à être entendus par les nations. C'est le seul moyen. Quand nous étions en Égypte, on était ballottés d'un côté et de l'autre, sans aucun poids, sans aucune mesure. Notre parole n'avait pas de force d'assise, comme dit le Kuzari. Baruch Hashem aujourd'hui, nous revenons sur cette terre. Alors on gêne beaucoup, mais quand on dit quelque chose, c'est entendu. Pourquoi? Parce que seulement depuis ce lieu, la parole de Dieu peut sortir. Et là aussi, ce sont des textes que vous dites, mais vous ne vous rendez pas compte. Qui nous sillonne, et c'est Torah. Ou Dvar Hashem, Yerushalayim. C'est seulement de Sion que la Torah sort. C'est seulement de Yerushalayim que la parole d'Akadosh Baruch Hu peut être dite et peut être entendue. Mais Hashem, j'espère qu'en ce petit degré, on a dit, vous donner le goût de ce que vous êtes. Vous êtes des prophètes. Et d'ailleurs, Bézat, si vous allez voir vos enfants et vos petits-enfants commencer à prophétiser, c'est marqué clairement dans le prophète Yoël. Pas moi. L'homme. Le vrai. Le Darabin.
Merci. Merci, Abdelhaoui. Voilà. Bien, merci pour cette conférence.